Bonjour et bienvenue sur l'antenne d'RCFM, un nouveau numéro de votre magazine Sobre à Logo. Alors aujourd'hui, notre invité est un auteur qui, au dire des spécialistes, compte de plus en plus dans le paysage littéraire insulaire. C'est Gilles Zerlin qui publie son 6e ouvrage, Guyane, aux éditions Maurice Nadeau. Nous y reviendrons plus tard dans cette émission. On va, comme on le fait à chaque fois, essayer d'en savoir un petit peu plus sur votre parcours et sur ce qui vous anime au quotidien. Gilles Zerlin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Votre actualité, c'est donc ce livre Guyane chez Maurice Nadeau, votre 6e ouvrage. C'est pas 6e roman, hein, c'est 6e ouvrage.
6e ouvrage, oui, il y a deux recueils de nouvelles.
Voilà, on en parlera un petit peu plus tard lorsqu'on va aborder votre statut d'auteur, d'écrivain, etc. Mais moi j'aime bien toujours démarrer du début, depuis le départ, c'est assez chronologique toujours les débuts de Sobre à Logo. L'enfance, elle est où? Même si je le sais, mais dites-moi.
Alors l'enfance, elle est à Toulon, mais pas n'importe où à Toulon. Hein.
Quel quartier?
Quartier de la Basse-Ville, surnommé Chicago. C'est quand même quelque chose d'extrêmement...
Il y avait les marins,
les marins, les prostituées, les bagarres de rue.
C'est juste en face de la statue Cuverville.
C'est derrière cette immonde barre d'immeubles construite après-guerre. Donc c'est toute la Basse-Ville des années 60-70 qui est un endroit extraordinaire, hein, je veux dire.
Et vous vivez dans Chicago?
Dans Chicago, véritablement.
Ouais, parce que moi, il y a 40 ans, je suis allé à Chicago, moi, une fois, avec le foot, hein, pour vous dire la vérité.
Voilà, donc à l'époque...
C'était quand même un quartier assez particulier. Hein.
Particulier, mais où il y avait quand même beaucoup d'ouvriers, beaucoup de Corses, de gens qui travaillaient à l'Arsenal, qui étaient logés là. Bon, maintenant, c'est devenu quelque chose, une zone de... un no man's land. Hein.
Oui, oui.
Mais à l'époque, c'était un endroit très vif, très, très coloré, où on entendait parler Corses dans la rue. C'était un endroit vraiment extraordinaire. On ne se remet pas d'une enfance pareille, quoi.
Et vous y êtes parce que vos parents y travaillent,
Parce que toute ma famille est là-bas. Mon grand-père est parti travailler à l'Arsenal de Toulon, comme tout bon Corse qui se respecte dans les années 40. Mmh. Et donc, je nais à Chicago. J'y suis élevé jusqu'à l'âge d'à peu près 10-11 ans. Et c'est ce qui a alimenté ma vie, quoi. Cette enfance-là est énorme pour moi. Chicago, c'est véritablement une ville corse. Il n'y a pas d'autre mot.
Vous êtes enfant unique, vous avez...
Je suis enfant unique, oui.
Enfant unique. Et à quel âge, 10-11 ans, vous quittez Chicago? Donc,
quitte Chicago, on fait comme...
Restez vers Toulon.
Voilà, on fait un peu comme les Bastiais quand ils partent à Loupine ou pour avoir la douche les toilettes. Et donc, on quitte Chicago qui était... devenu Chicago, on va dire la Basse-Ville, c'est plus noble. Ouais. On quitte la Basse-Ville pour s'installer en petite banlieue, pour être dans un bâtiment moderne. Pour moi, ça a été un vrai déchirement. Ça a été mon premier exil.
Donc, tout ce qui est école primaire, etc., c'est dans ce quartier-là.
C'est dans la Basse-Ville.
Vos amis sont là, vos amis d'enfance sont là.
Voilà, mes amis de petite enfance sont là, oui.
Et cette période, alors, sans être un spécialiste de votre écriture, mais c'est quelque chose qui vous a profondément marqué, puisque ça se retrouve dans plusieurs de vos ouvrages.
Hein. C'est incroyable, parce que, oui, effectivement, au niveau sensoriel, culturel, et même territorial, ça m'a profondément marqué. C'est-à-dire qu'y compris les rues, l'architecture, la manière dont on se déplace dans cette rue.
Et les personnages.
Et les personnages, et les gens qui sont passés dans ces rues avant moi, comme Django Reinhardt, comme Rému, comme Félix Mayol, sont très importants dans mon imaginaire. J'ai une espèce de panthéon personnel. Qui croisent... bon, il y a beaucoup de musique et beaucoup de chansons, hein, mais...
Il y a aussi beaucoup de bars.
Beaucoup de bars
et d'ambiance.
Oui.
Alors, glauque, ça va pas sûrement vous plaire, le terme de glauque, parce que vous y étiez bien. Mais pour certains, il est qualifié de glauque,
peut-être. C'est pas glauque, le terme exact, on va dire...
Oui, si vous l'écrivez.
Trivial, on va dire, peut-être.
D'accord.
Plutôt que glauque.
D'accord. Le rapport à la Corse durant cette période-là,
vacances... les vacances, les parents qui viennent dormir à la maison, la langue corse dans le bâtiment, entre Madame Fabiani, qui est au dernier, et qui parle un balanin avec une voix très très aiguë comme ça, et mes grands-parents qui sont tous les deux roukizani, hein, enfin qui parlent roukizani, parce que je ne sais pas si on peut dire être roukizani, je ne sais pas si c'est...
En tout cas, c'est une identité, en tout cas.
On peut dire une forme d'identité linguistique, en tout cas.
Oui, parce que Zerlin,
c'est de Sartène. C'est vraiment un nom historique de Sartène, qui a pratiquement disparu d'ailleurs. Mais cette Corse en mille feuilles, c'était une merveille, quoi. C'était une merveille absolue. C'était beaucoup de baladins tout de même, hein. C'est pas un reproche. mais une grosse présence quand même des Balanins, des gens de Castagniche. Hein.
Et vous rentriez l'été
Oui, on restait 2 mois et demi. Oui. On rentrait à Coens, puisque mes attaches de Tavagne ont été rompues très tôt. Hein.
D'accord, donc, vous, c'est plutôt le sud. Moi, même dans votre écriture, c'est
la Roca,
présent.
C'est la Roca, c'est le Sartenay, hein, pour Tivet.
Et vous sentiez en famille qu'il y avait une volonté de garder ce lien avec la Corse, ou vos parents n'y pensaient pas trop, puis ça se faisait parce que l'endroit était truffé de Corse?
Alors, puisqu'on est un peu dans l'intimité, c'est pas mes parents. Moi, j'ai été élevé par mes grands-parents.
Ah, d'accord.
Donc, c'est pour ça que j'ai une espèce de... d'étirement, comment dire, temporel et territorial, c'est-à-dire qu'en fait j'ai été élevé par des gens qui sont nés en 1900. C'est pour ça que des fois culturellement je peux être extrêmement moderne et extrêmement archaïque en même temps, et je suis très fier de ça parce que ça se voit aussi dans mon écriture, c'est-à-dire qu'il y a quand même une culture paysanne très forte chez moi et une culture urbaine toulonnaise que j'ai appris sur place, quoi.
Alors, vous quittez ce quartier de la basse ville pour des commodités, on va dire.
Voilà.
Donc, vous continuez le parcours collège, tout ça, ça se fait
collège,
toujours...
ça s'arrête très tôt.
Ah.
Ça s'arrête très tôt, hein, puisque j'arrête l'école à Loré, comme on dit.
Mais quand vous êtes prof d'histoire, je pensais que vous étiez allé un petit peu plus loin.
Non. D'accord. Non. J'arrête l'école à Loré de la 3e.
Avant le BEPC.
Je passe le BEPC. Ah. À l'orée de la seconde, excusez-moi.
Ah, d'accord. Ouais.
À l'orée de la seconde, je reste quelques mois et puis je m'en vais.
Pourquoi?
Et puis là, parce que je ne supportais pas du tout l'école. Quoi
l'institution, le cadre, la rigidité.
Je m'ennuyais à crever. Bon, ah. Ça m'a permis de lire beaucoup de livres en classe. Hein. Ça m'a donné aussi une très très grande assise culturelle. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui est classique français,
ouais.
Flaubert, Maupassant, Giono, Balzac.
Alors, en ayant cette appétence-là, vous n'avez pas eu envie de poursuivre?
Non. J'étais trop en rupture avec ce monde-là. Et là, je me retrouve à travailler sur les marchés. C'était rude, mais vif.
Mais vous étiez quoi, heureux, là, alors, du coup?
Ah, c'était pas mal, ouais. C'était pas mal. Donc, quelques années de travail sur les marchés. C'était rude, parce qu'il fallait se lever très tôt
très
le matin.
Tôt,
j'ai eu des froids, je me suis gelé comme jamais de ma vie, mais j'ai ri comme jamais de ma vie aussi. Là aussi, grosse culture populaire.
Oui, puis avec des personnages, j'imagine, aux couleurs.
Extraordinaire. Donc, je m'en sers très peu dans mes livres, mais je crois que ça m'a beaucoup appris sur l'humour et sur l'autodérision, surtout. Et ensuite, je deviens, parce que autrement, on ne va pas y arriver en une heure, je deviens, quelques années après, projectionniste.
Oh, vous avez fait un grand saut, là.
Un grand saut.
À
hein,
quel âge vous êtes projectionniste?
Oh, j'ai fait un grand saut, je suis projectionniste à 21 ans.
Ah ben oui, ben il y a quand même tout un passage entre la seconde et 21 ans.
Ben là,
il y a le service militaire, tout ça, vous avez
oui,
fait tout ça?
Oui, service militaire, dont ils se
souviennent Toulon,
très
dans
bien
la marine,
à Toulon, dans les sous-marins, ils se souviennent
ah,
très
oui,
bien de moi.
Ouais. D'accord.
Ils se souviennent très bien de moi, parce que, voilà, j'ai un peu fait l'idiot en caserne.
Donc, l'école, vous n'y retournez plus?
J'y retourne à l'âge de 42 ans.
Ah. Allez-y, développez. Ouais, parce que...
Eh bien, à 42 ans,
pourquoi
je suis pris d'une grande inquiétude vis-à-vis de mon
parcours,
avenir professionnel et je retourne à la fac de Corté où je rencontre M. Weiss, où je lui déroule mon CV, où il m'accepte en deuxième année de fac.
D'accord. Ouais.
Et je suis très content parce que je n'ai pas le bac à l'époque. Hein.
Et vous sortez professeur d'histoire.
Et je sors professeur d'histoire et doctorant. Moi, j'ai pas fini mon doctorat comme à peu près tous les gens de mon âge. Mais voilà, je suis quand même doctorant à la base, quoi.
Alors, avant d'arriver à Corté, etc., parce que vous arrivez en Corse aussi.
Alors, j'arrive en Corse assez âgé, enfin, par rapport à mes désirs, puisque pour moi, le retour, on va appeler ça comme on veut, hein, en Corse, c'était fondamental depuis l'âge de 12 ans, hein.
Ah, très aussitôt, vous saviez que vous deviez revenir.
Mais... Toulon, c'est quand même une ville corse.
Oui, hein. Oui, bien sûr.
Je veux
sûr.
Dire que le souffle des années 70 est arrivé à Toulon. Hein.
Bien sûr.
Quand vous voyez, quand vous avez 12 ans, que vous remontez votre rue, la rue du Paumé, et que vous arrivez sur la place du théâtre...
En 75, vous... quand vous avez 12 ans,
voilà.
Pour situer la période historique.
Et que vous voyez la place du théâtre envahie de bandes.
Ça marque.
Ben, ça marque un peu plus que ça, même. Ça fait, c'est très étrange.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez conscience d'une forme de corsitude qui se met, enfin, d'appartenir à quelque chose, de suivre un mouvement.
Tout en même temps. C'est tout en même temps, mais surtout, ce qui est fondamental, c'est le respect et l'amour que je porte à mes grands-parents. C'est-à-dire que c'est pas un réacquiste, parce que moi, le mot réacquiste, je l'ai jamais assumé. Hein. Moi, je vois pas ce qu'on doit...
Vous n'avez rien à,
non,
à acquérir.
Non, il y a rien à acquérir, c'est la continuité. C'est plutôt la continuité de quelque chose, de pas couper le fil. On va pas retrouver la bobine, on l'a la bobine. On continue à dérouler la bobine. Et cet amour que m'ont offert mes grands-parents, et mes parents aussi, mais mes parents, ils avaient presque perdu toute leur corsitude, m'a donné envie de revenir. Et je suis revenu.
Vos parents sont restés
Oui, mes parents.
Comment ils l'ont pris?
Mon grand-père l'a très très mal pris. Mes parents m'ont dit,
Votre grand-père, j'imagine qu'il a passé sa retraite à Toulon.
Oui, il l'a très 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 mal pris. Pour lui, c'était vraiment le retour à la terre de la misère.
Voilà, c'est ça qui lui faisait peur.
Ah oui, oui.
Il associait la Corse à,
à un enfer.
Il avait quitté pour faire sa vie et s'en sortir, entre guillemets.
Il était jardinier, je dis bien jardinier, pas paysan, jardinier. Maraîcher, on va dire en français correct, Ourtoulan ou à Sartène. Et pour lui, le retour à la Corse, c'était une catastrophe pour moi. Il a beaucoup souffert de ça.
Vous lui avez expliqué? Vous avez essayé d'en parler ou...
Non.
Peu importe.
Une espèce de folie.
Est-ce qu'on pouvait vous retenir, vous, à l'époque?
Non.
Je sais pas.
Non, on ne pouvait pas me retenir, puisqu'à Toulon, j'étais parfaitement intégré, j'avais un métier. Je travaillais chez Gaumont comme projectionniste.
Ouais.
Donc, j'étais parfaitement intégré. Et l'appel de la forêt pour m'amuser. Non, l'appel de la Corse a été gigantesque.
Vous rentrez donc à quel âge?
24, 25 ans, 25 ans.
Et vous arrivez pas à Bastia alors?
Pas du tout.
Ah
non,
vous arrivez où?
J'arrive à Fieri.
Ah.
Et là, je suis berger à Fieri. Donc, je passe des salles obscures.
Mais vous m'avez dit en préparant l'émission que... Vous avez eu plusieurs vies, enfin plusieurs métiers, mais chaque métier que vous avez exercé, vous avez au préalable suivi une formation. Enfin,
toujours,
vous avez fait les choses dans les règles de l'art, on va dire.
Quand je dis projectionniste, j'ai l'examen de projectionniste. Quand je dis berger, j'ai le CAP, le BEPA de berger. Oui, je fais les choses correctement.
Et pourquoi berger?
Parce que...
Quand on sort d'une ville.
Parce que...
On n'a pas connu...
Tout simplement...
Côté romantique un peu, tout ça ouais,
Évidemment, mais surtout l'opportunité. Je veux dire que j'avais un parent qui avait une propriété, il avait besoin d'ouvriers agricoles. Je l'ai été, j'ai été berger. S'il avait été menuisier, j'aurais été menuisier.
Ah, d'accord. C'est pas une vocation. Enfin, c'est vraiment... Voilà, c'est pour...
Non, c'était une opportunité, familiale, grande familiale, qui m'a fait revenir en Corse. Je vous dis, s'il avait fallu être garagiste, j'aurais été garagiste. L'important était de revenir.
D'accord. Ouais. Et vous êtes resté berger longtemps ou c'était une transition?
Non, c'était 4 ans, on va dire. 4 ans.
Ah, c'était avant de faire le moniteur de voile
Moniteur de... Non, plongée.
De plongée, oui. De voile, parce que j'ai fait une interview il y a quelques temps d'un moniteur de voile, pardonnez-moi.
Voilà.
Effectivement.
Voilà.
Et voilà, donc comment on passe de... Je ne sais pas si c'était des brebis ou des chèvres.
Par nécessité, oserais-je dire, puisque entre-temps, je fais des remplacements à la poste. Bon, là, on est un peu dans le CV.
Oui, non, mais bon, plusieurs métiers. Voilà.
Et comme j'ai quand même une culture sous-marine véritable,
bien sûr,
à Toulon... Mon père faisait partie des premiers plongeurs, ceux d'après-guerre, qui plongeaient en 50-55, tout premiers plongeurs. Donc j'ai une culture marine. Il y a une formation qui s'ouvre à Bastia, je me présente sans beaucoup d'illusions, je suis pris et j'arrive à Bastia en 95 et je n'en suis plus parti depuis. Quand je dis Bastia, c'est Bastia, la Lota, le Cap Corse, hein. Mais je suis venu ici... comme un étranger, et j'y suis toujours depuis 30 ans bientôt.
Mi parlò di dun Margareta sur Buda, sino all'alba budia di ogni e donna, cu piaceri di gomba, qui c'è nato l'amore, grati donso passioni, un mondo a di fa. Tarra di gioventù si gomba sempre, ogni più che mai all'uso paesano, fatto di granito o di petrugiata, tutto pavimento mai un'invecchia. Da udeo di guanzo una vita compianta, cu piaceri di gompa, qui c'è l'aria divina, una Madonna bianca, un mondo a briga. Tarra di gioindu si gompa sempre, oggi più che mai all'uso paesano, fatto di granito o di petrucciata, tutto pavimento mai un'invecchia, ogni maestosa cima la compagna, al cudina valeda ospedale cagna, alta rocca lutto nomici a rega, come un sogno misterioso come un prega.
Deuxième partie de ce Sobralogo avec votre invité Gilles Zerligne. Parcours riche, hein, de oui. Toulon jusqu'à votre arrivée, on va dire, à Bastia en tant que moniteur de plongée. Hein, on en Exactement. Est là, à peu près, pour ceux qui nous rejoignent. La littérature, parce que aussi vous sortez ce sixième ouvrage, Guyane, aux éditions Maurice Nadeau, dont on va parler dans quelques instants. La littérature, c'est pas que récent.
C'est très récent. C'est très récent.
Mais je veux dire, vous nous disiez que jeune, vous lisiez énormément. Cet intérêt, cet amour,
ça remonte à très tôt, la lecture, ça remonte à très tôt. Le cinéma, ça a été quelque chose de très important pour moi, ça a totalement disparu de ma culture, hein. C'est-à-dire je considère maintenant que c'est...
Ça s'arrêtait où alors votre cinéma? Depuis quand vous n'y allez plus
J'y vais plus beaucoup, mais j'y vais toujours, mais autrefois c'était fondamental pour moi, j'allais 3-4 fois par semaine au cinéma, et j'étais projectionniste, donc j'ai vu des milliers de films, mais c'est devenu quelque chose de plus du tout important pour moi, la littérature a pris le dessus, et en fait je me suis mis à écrire très très tard, parce que jeune, j'écrivais un petit peu, j'ai écrit quelques chansons à droite à gauche, mais c'était mon but, c'était Shakespeare ou rien, quoi. Donc Shakespeare ou rien, voilà.
On place la barre haut.
Voilà, on place la barre un peu trop haut, et puis on voit les années qui passent, et puis la quarantaine passant, même presque la cinquantaine passant, on peut dire, bon, on va dire, je vais m'y mettre, je m'y suis mis. Il y a des gens qui m'ont reconnu très vite, donc j'ai sorti 3 ouvrages chez Materia Scritta.
Alors, attendez, je retrouve. Il y avait les mauvaises nouvelles, c'est
Mauvaises nouvelles, c'est le premier.
En 2012, oui.
Donc, ça, c'est des nouvelles, comme son nom l'indique. Ensuite, il y a Chute, qui est un roman qu'on peut qualifier de policier. Je préfère le terme dur comme Simenon utilisait ça. Et ensuite, il y a.
Sainte-Julie de Corse,
qui était aussi un recueil de nouvelles. Et à partir de ce moment-là, un miracle arrive. C'est un coup de téléphone de Monsieur Gilles Nadeau, qui est le fils de Maurice Nadeau, qui me dit, j'ai reçu votre manuscrit et ça m'intéresse. Je croyais que c'était une plaisanterie. Hein,
Donc vous avez fait la démarche de l'envoyer quand même.
J'ai fait la démarche de l'envoyer quand même et c'était mon dernier envoi. J'ai dit, si ça ne passe pas, je n'envoie plus rien.
Dernier envoi, parce qu'il y en avait eu d'autres avant chez lui.
Ailleurs. Chez beaucoup d'éditeurs.
Mais ce même scénario, enfin, Épuration, que vous aviez envoyé ou c'est autre chose ?
Épuration, je l'avais envoyé à plusieurs éditeurs. Et ça a été le dernier envoi à un éditeur du continent. J'ai dit, bon, ben, si ça passe pas, on arrête tout. Hein. Parce que moi, j'écris pour être lu, j'écris pas pour me faire plaisir.
Et, c'est honnête. C'est honnête.
Et donc, M. Nadeau me téléphonait, me dit votre écrit m'intéresse. J'y ai pas cru. Hein. J'y crois pas toujours aujourd'hui, pratiquement. C'est un vrai miracle, puisque je me retrouve.
Mais pourquoi vous n'y croyez pas ? J'ai du mal à saisir. Pourquoi vous n'y croyez pas
Parce que Maurice Nadeau, c'est
oui,
une maison d'élite où est apparu quand même, où a été édité. Aragon, oui, Angelo Rinaldi.
Mais quand on veut être Shakespeare ou rien.
Oui.
il vaut mieux taper chez Nadeau que chez.
Oui, oui, oui.
Je ne dirais pas de nom.
Non,
pour ne vexer personne.
Pas de nom.
Oui, bien sûr.
Mais oui, oui, c'est bien. C'est bien. Ça démarre bien. Bon, et chez Nadeau a démarré.
Alors, Épuration, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas lu, c'est Toulon.
Épuration, c'est Toulon à 100%. Quelques passages en Tavagne, quand même.
Voilà, hein, voilà.
À Villon, et en particulier. Épuration, c'est Toulon, c'est 1944 à Toulon, avec des vengeances personnelles qui se règlent entre Corses.
Mais alors, on ne l'a pas encore dit, mais il y a aussi, c'est par rapport à votre père,
par rapport à mon grand-père.
À votre grand-père, pardon, oui. Votre père, c'est plus tard.
Ouais. Ouais. Donc, c'est une période très trouble, et c'est un roman que j'ai écrit avec du sang, hein, au sens propre du terme. Hein. C'est un roman très, très, très difficile à, pas à écrire, parce que j'écris très facilement, mais à extraire, on va dire, à extraire. C'est un roman qui est finalement l'aboutissement de 30 ans de questionnement sur un crime, et puis je donne la réponse au crime à peu près, comme je peux, dans ce...
Mais les personnages ne sont pas fictifs.
Tout est vrai.
Voilà.
Alors moi, je le dis tout le temps, pour tous mes écrits, quels qu'ils soient...
Tous,
sauf la nouvelle dans Mauvaise Nouvelle, où il y a quelqu'un qui tue un policier à la lunette. Mais la lunette, c'est le fusil à lunette, excusez-moi.
Oui, mais un grand pisse médiatique.
Non, tout est vrai dans mes livres, tout est vrai. Je n'ai pas la capacité d'inventer quoi que ce soit. Et en général, mes personnages découlent toujours de quelqu'un que j'ai connu ou de moi-même.
Ou d'un témoignage, peut-être.
Je ne suis pas du tout un inventeur de personnages. Par contre, j'ai une grande, grande capacité à retranscrire les ambiances. Par exemple, sur Épuration, où je n'ai absolument pas travaillé. Quand je dis travailler, je ne suis pas un écrivain qui travaille avec des notes et tout ça. Moi, j'écris. Hein. Et il y a des gens qui ont fait la guerre d'Algérie qui m'ont dit « Oh, c'est fantastique, vous racontez des choses que j'ai vécues, ça se voit que vous avez connu... »
Mais quelque part, vous avez été aussi nourri par
des
témoignages, les ambiances, j'imagine.
Voilà, les repas de famille, les ambiances. Mais j'ai été capable de...
Capter tout ça.
De
faire l'éponge.
Ouais. Voilà. Et pareil pour...
Mais Toulon, on sent, enfin moi j'ai lu en diagonale, je vais être très honnête, je ne vais pas faire celui qui a tout lu.
Oui, oui, oui.
Mais on sent que le Toulon que vous avez connu du début, avec des ambiances particulières, avec des filles de petites mœurs, je ne sais pas comment on disait à l'époque. Mais non, mais c'est tout ça, c'est ces ambiances-là aussi hein, qui sont dans le...
Oui, c'était mon enfance, c'était la normalité, c'était chacun son métier, avec une espèce de respect quand même pour... les dames de petite vertu, comme on va dire.
Ah, petite vertu, voilà.
Et les ouvriers qui rentraient de l'arsenal.
Parce que même après, ça revient même dans Guyane. Il y a une ambiance.
Dans Guyane, il y a un bordel.
Oui, à un moment donné.
Saint-Laurent-du-Maroni.
Voilà.
C'est vrai que ça fait
sans trop spoiler le truc, mais.
Oui, ça fait partie de mon imaginaire, c'est vrai.
Alors, qui revient de ce que j'ai lu, il y a aussi du Dante, pas mal.
Ah, Dante, non, c'est quelqu'un de...
C'est quelque chose qui vous accompagne, notamment l'enfer, ça vous a marqué.
Dante, c'est une lecture fondamentale pour moi. J'ai commencé à lire Dante jeune.
C'est difficilement accessible, jeune, en
oui,
plus. Hein,
oui, 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 l'enfer, c'est accessible. Ce qui est totalement abscon, c'est le paradis et
le purgatoire.
Le paradis, c'est totalement... c'est très, très compliqué à lire. Et le purgatoire, un peu moins. Mais Dante, c'est quelque chose qui m'a nourri fondamentalement. Alors, je ne sais pas pourquoi exactement, parce que je pense que... Enfin, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a une mémoire longue. Mmh. C'est-à-dire qu'on reçoit des choses qui viennent quelquefois des générations
Antérieure.
Antérieure. Et peut-être que bon, mon grand-père chantait beaucoup à l'église. Peut-être que le verset de Dante, c'est quelque chose qui a résonné dans ma tête. Donc,
en tout cas, les bergers, peut-être, qui récitaient du Dante,
non,
soi-disant.
Non, pas à mon époque, les bergers récitaient les comptes en banque, déjà. donc,
bon.
Mais mon grand-père, oui, mon grand-père était chantre de l'église à Sainte-Marie, à Sartène. Mm-hmm. Donc peut-être que la rythmique du chant m'a beaucoup influencé et je suis tombé dans Dante très jeune et j'en suis jamais sorti. Je lis Dante depuis toujours, auquel je ne comprends rien en vérité. Mais...
Bah, moi j'ai essayé plusieurs fois, j'ai même de la famille qui est un peu spécialiste de Dante, un peu beaucoup même, mais c'est... Alors quand on vous l'explique, c'est fascinant,
oui,
mais
oui.
Il
faut pas se tromper de traduction si on le lit en français.
Mais parce que des fois, un mot, justement, voilà, change l'interprétation.
Hein. C'est pas si compliqué que ça, finalement. Enfin, je parle de l'enfer. Hein.
En tout cas, bon, il y a...
Dante, c'est fondamental, voilà.
Voilà.
C'est mon évangile à moi. C'est mon évangile.
C'est votre évangile. Alors, dans l'épuration aussi, pareil, les premières réactions des gens autour de vous, au-delà de l'éditeur, bien évidemment, mais c'est vrai que ce soit en ville, dans ce microcosme, un peu de l'audiovisuel, un peu où tout le monde se connaît plus ou moins, quand il y a quelque chose de nouveau, on en entend parler. Moi, je n'ai entendu que des choses dithyrambiques hein, sur vous, sur votre style, dit par des gens dont c'est le, on va dire, la profession. Donc, vous, comment vous recevez ces...
Alors moi, d'abord, c'est pas de l'orgueil. Moi, j'écris pour les autres. C'est fondamental pour moi. Moi, je suis comme un musicien de rue. Hein. C'est-à-dire que il faut que ça se transmette. Comment je reçois ça? C'est un véritable honneur. Moi, j'écris pour les miens. Je suis quelqu'un qui a été élevé dans le commun. Alors, c'est un peu un défaut aujourd'hui, peut-être. Mais évidemment, quand les gens... Moi, je pensais que j'allais avoir de gros, gros problèmes avec l'épuration quand il est sorti.
Par rapport?
Ben, c'est quand même l'histoire d'un homme qui se fait assassiner parce qu'il a, entre guillemets, collaboré. Quoi. Je veux dire, c'est pas une résistance sur le plateau du Vercors.
Non, mais on est aussi dans une époque où on en parle beaucoup.
Voilà.
Les femmes tondues, etc.
Voilà.
Je veux dire, bon, depuis peu, oui. Quelques années, il y a ce travail qui commence un peu à ressortir.
Et
on accepte aussi en Corse, ou ailleurs même, que des gens aient collaboré. Hein.
Donc,
on accepte, du moins.
Je n'ai eu aucun souci avec cet ouvrage. Je vous avouerai que les premières signatures que j'ai faites dans certains endroits, j'étais pas très fier. Et y compris, il y a eu une adaptation
au théâtre.
Et je craignais le pire. Et quand ça a été joué dans une région de Corse où j'ai de la famille, la Balagne, pour ne pas la nommer, il y a des gens qui ont été enthousiastes, y compris qui ont reconnu des personnages. Alors que moi, je m'attendais à un cataclysme. Ça veut dire que quand même, dans notre peuple, il y a quand même la capacité à... Il y a quand même un grand fond d'humanité quoi, dans ce peuple, malgré tout.
Ah ben
malgré...
C'est évident.
Oui, mais...
Pas évident.
C'est... Là, je l'ai vraiment ressenti. Il y a une vraie humanité, une vraie charité, au sens profond du terme. Et finalement, ce que je pensais être un cataclysme a été plutôt quelque chose qui s'était bien passé. Pas une épiphanie, mais presque.
Et vous êtes surpris vous-même par ce que vous écrivez? Ça vous arrive ou pas
du tout? Ah oui, alors ça, c'est une capacité véritable.
Certains le disent aussi. Hein,
Dante dit, nous écrivons et les anges nous chuchotent à l'oreille.
Ah.
Ça veut dire que quand on relit ce qu'on vient d'écrire, quelquefois, on lit l'écriture d'un étranger. C'est pas de la schizophrénie, c'est parce que quand on est dans une écriture profonde, on n'est pas dans un état
normal.
Normal, on est dans un grand éveil, on va dire une espèce de une poésie profonde. Et
ça veut dire qu'il y aurait des, je sais pas moi, vous seriez le bras d'une âme, de quelque chose.
C'est les anges qui me parlent à l'oreille. Non, j'exagère. Non, je suis le bras de mes anciens. Le bras de mes anciens, j'aime beaucoup ce terme, même si tout le monde croit que c'est un thème un peu orgueilleux, c'est le terme d'Aed. Qui veut dire le poète grec qui parle pour les autres. On est quand même des Méditerranéens, on oublie, parce qu'on vit comme des Californiens depuis quelques années.
On doit aussi regarder autour de nous, et pas que dans un sens.
Voilà, et moi je suis, nous sommes des Méditerranéens, et nous avons une culture profonde qui nous permet... d'être très très improvisateur et de pouvoir exhumer des éléments dont on ne doute plus, dont on ne sait pas qu'ils existent. et cette poésie naturelle, même sauvage, oserais-je dire, je crois que je la possède encore. Mais je pense que beaucoup de gens encore la possèdent. Hein.
Et dans le monde d'aujourd'hui, vous vous y retrouvez, vous êtes heureux, vous êtes un peu perdu, vous pensez à vos grands-parents. Elle est vaste cette question.
Je me rappelle parce que ça avait été repris sur les réseaux sociaux. J'ai dit, je suis du 13e siècle. Je suis désolé de dire ça, quoi. Carrément. Je suis pas de ceux.
Du temps de Dante alors.
De Dante et de Saint François.
Oui, oui.
Je suis désolé de dire ça, quoi. Moi, je suis pas de cette époque.
Mais comment vous arrivez à vous intégrer quand même et puis à vivre dans cette
époque? Je conduis une voiture.
Mais oui, du 13e siècle d'ailleurs.
Non, mais comment j'arrive à m'intégrer par la parole, par la faconde. Mais pour moi, c'est une société qui me terrifie. C'est la société. C'est notre fin. FIN, hein. C'est notre fin, et je vois notre fin tous les jours.
C'est ça qui vous a fait vous engager aussi à un moment donné avec le pôle, l'association,
etc. Oui. C'est-à-dire que j'ai bien vu que nous qui ne produisons rien, alors rien que dire, oui, mais encore son produit, bon, il faudrait qu'on montre ce qu'on produit. Nous qui ne produisons rien, nous sommes la proie, nous sommes la proie d'immenses appétits extérieurs ou intérieurs, d'ailleurs, excusez-moi du terme. Et on est en train d'être dévoré sur place. Hein. Je veux dire que l'économie ne se nourrit pas d'air et de petites fleurs. Hein. L'économie se nourrit de la prédation. Et comme nous, on n'a pas grand-chose à vendre, eh ben, ce qui est sacrifié, ce sont les espaces collectifs. Et quand on dit ça aujourd'hui, on dirait qu'on dit quelque chose d'extraordinaire. Ça s'est passé dans le monde, ça se passe dans le monde entier. Et la Corse est en train de brûler. C'est un immense incendie qui nous passe dessus. Alors moi, je ne suis pas de ce monde, mais je pense qu'on est quelques-uns. Les gens qui ont une culture profonde, quand je dis profonde, qui ont entendu la parole des anciens.
C'est ce que j'allais vous demander. Justement, quand on est élevé par des grands-parents, quand on a entendu parler d'un autre monde. Et c'est le cas de beaucoup de gens qui ont été élevés aussi directement ou indirectement par des parents, parce qu'à table, il y avait tout le monde. Et moi-même, qui suis un petit peu plus jeune que vous, j'ai entendu parler de la guerre de 70, de 14. Alors, pourtant, c'est vraiment pas bon. Mais donc, quand on a été élevé par ce genre, quand on a entendu tout ça, qu'on voit aujourd'hui le monde, c'est là où je dis que ça va être difficile de trouver
C'est très difficile, parce qu'on est un peuple de bergers. On est un peuple de... J'aime pas le mot berger, parce que berger, ça fait vraiment... les bergeries, c'est sympa, tout ça. Donc, on est un peuple de paysans guerriers.
De paysans guerriers.
Guerriers aussi, oui. C'est-à-dire que tous les 15 ans, il fallait partir. Hein, ou pour débarrasser la famille, parce qu'il y avait trop de mal, ou parce qu'on était appelé sur le front. Et on se retrouve un peuple de rien. On est en train de se transformer en banlieue, là. On n'est même pas des commerçants. On n'est même pas à Monaco. Les gens croient qu'on est à Monaco. On n'est pas à Monaco. On est dans une banlieue. Et on est en train de nous perdons quelque chose, quoi. Perdons même au sens militaire du terme. Hein. On est en train de.
Est-ce que vous pourrez écrire un jour sur ça, sur ce changement de société?
Mais j'écris tout le temps sur ça. J'écris tout le temps sur ça. Tous mes textes, en vérité, mes textes sont des contes. Mais je dis tout le temps la même chose, pratiquement. Je ne pardonnerai jamais à cette économie. On va pas utiliser les termes politiques, je veux dire économie, d'avoir fait disparaître une société qui a 5000 ans. C'est insupportable pour moi. Les chemins de transhumance n'existent plus, plus personne ne transhume. Ok, c'est bien, on a des voitures, quand on va chez le dentiste, on a plus mal aux dents, c'est fantastique. Mais on aurait pu imaginer une transition un peu plus douce. On est passé en 50 ans d'une société rurale à rien. Et quand je dis rien, c'est rien. C'est-à-dire que la Corse aujourd'hui, c'est même pas la Californie, quoi.
Est-ce qu'il pouvait en être autrement?
Oui, il aurait pu en être autrement, mais c'est un peu compliqué, il faudrait 5 heures d'émission.
Ouais, puis peut-être qu'il y a eu... Oui, on aurait pu être autrement, puis il y a eu beaucoup de déceptions.
Ah, il n'y a pas eu de déception, c'est-à-dire que
désillusions.
Les chimères, moi j'avais des troupeaux de chimères à l'époque, j'avais un troupeau de brebis, mais à côté du troupeau de brebis, j'avais un troupeau de chimères. Et les chimères étaient plus puissantes que les brebis, oui. Je pense que la finalité de la politique, c'est la trahison. C'est la finalité pure de la politique. Je m'arrête là.
Parce qu'il y en a des exemples. Allez, une pause. Troisième et dernière partie de ce Sobralo consacré à Gilles Zerlini. On a appris plein de choses, votre parcours, pas tout. On n'a pas parlé de votre période rock ou chantier.
Non, c'est pas possible, sauf petit intérêt quand même. Mon intérêt énorme pour la chanson. La chanson et la musique. C'est la
chanson, musique, cinéma, littérature.
Oui, mais la chanson, c'est quand même quelque chose.
Quel genre? Alors, juste quand même, je suis obligé de vous poser la question.
La chanson française.
Française.
Française des années 30, Fréhel, Damia. Ensuite, évidemment, Brassens.
C'est pour ça que vous êtes écrivain réaliste, parce que c'est une chanson réaliste.
Enfin,
c'est
alors, les chansons réalistes me plaisent beaucoup.
Ouais.
Et donc plutôt écrivain réaliste.
Vous l'avez dit dans une interview, je fais que reprendre.
Exactement. Hein, voilà. Non, écrivain réaliste, parce que oui, ces années 30-là, quand même, sont des années très importantes pour moi, parce que c'est le hasard, mais tous les écrivains majeurs pour moi sont de ces années-là. Simenon, Giono, Carco, c'était l'époque du réalisme. C'est une époque, ce qu'on appelle l'entre-deux-guerres.
Mmh.
C'est une époque qui me fascine absolument.
Il va quand même falloir se réveiller, Gilles. Hein. Parce que entre le XIIIe siècle et les années 30, il faut arriver à 2024.
Oui, mais on y est. Je possède un ordinateur, j'ai l'électricité
non,
chez moi.
C'est très bien, je vous taquine. Je voudrais évoquer justement votre dernier ouvrage, Guyane, paru donc aux éditions. C'est le deuxième, hein, chez Maurice Nadeau. Hein.
Troisième.
Le troisième. Oui, non, il y en a eu deux avant.
Oui,
troisième. Alors là, encore une histoire. Alors, ça part d'un que votre trisaïeul.
Mon trisaïeul. Vous a raconté. Antoine Michel.
Quelque chose qui est arrivé
Ferracci.
Jusqu'à vous, voilà. D'une histoire. Alors, j'ai peur de trop dire de choses, mais sordide ou même pas sordide.
Non, pas sordide, un crime familial.
Deux hommes. Enfin, en fait, c'est l'oncle qui tue son neveu.
L'oncle qui tue son neveu, bon.
Qu'il adore comme son fils.
Voilà, bon, on est en 1889. En 1889, ça tombait comme les mouches. Hein. Il y avait, sans exagérer, au moins 200 crimes par an en Corse. Hein.
Oui, mais de là, tuer quelqu'un que l'on aime et qu'on considère comme son fils.
Oui, mais on est quand même dans une période. Alors là, c'est un peu, malgré tout, l'historien qui va parler. On est dans une période de véritable bouleversement, c'est-à-dire que on est dans une période où la propriété privée arrive en Corse. Il y a beaucoup de conflits de territoire et ça tue de tous les côtés par rapport à ça. Hein. Une grande partie des ce qu'on appelle les vendettes ou les bandits d'honneur sont quand même le fruit d'abord de l'arrivée de la monnaie en Corse, hein, en partie, et d'un cadastre qui essaie de s'imposer. Donc là, il y a un crime. Véritable, hein, c'est un crime qui existe. Hein.
C'est pour ça que, juste comme vous dites, quand vous décrivez cette période-là, est dit dans le livre, à un moment donné, je suis donc un survivant d'un génocide.
Et oui, parce que si on additionne en Corse Le 19e, on va pas parler de la période de l'indépendance avec les guerres paulistes. Mais si on additionne le 19e siècle, donc ce qu'on appelle la période des bandits, entre guillemets, la guerre de 14, la guerre de 40, où il y a beaucoup de Corses qui sont morts à Cassino, sur le front, en Allemagne. Donc, l'Indochine, l'Algérie.
Le tribut est lourd.
Et excusez-moi du terme, 1993, où on a commencé à se tirer dessus comme à la chasse, ça fait quand même beaucoup de morts. Ça fait quand même... On ne s'en rend pas compte, mais c'est un cortège funéraire, malgré tout, ce siècle et demi. Donc, on est quand même, quand on commence à voir, quand on commence à additionner les crimes et les morts violentes, les malamorti...
C'est énorme.
C'est énorme. C'est pour ça qu'on est quand même les survivants de quelque chose. Et celui qui vous le dit, je reviens à cette période parce que je rêverai un jour pouvoir en parler, à traverser aussi quand même ce que j'appelle les années de plomb, les années 90 en Corse. Passage incroyable.
Ce sera peut-être un jour l'objet de quelque
chose. On verra.
En tout cas, pour revenir à Guyane, donc cet oncle tue son neveu. Il est donc obligé de partir.
Il est condamné.
Il est condamné à 30 ans.
À 30 ans.
Je sais pas si 30 ans et il faut qu'il parte alors. Non, c'est pas 30 ans.
Je crois que c'est 20.
Non. 20, je sais plus.
Non, ça me fait rire parce que des fois les gens ils me disent.
Non, vous savez pourquoi je dis. Non, mais vous avez raison.
Oui.
Parce que dans ma famille, il y en a qui étaient partis 30 ans. Non, pardon. Oui, 20 ans.
C'est pas important.
Non, mais enfin, en tout cas, ce qui est important, c'est l'arrachement qu'il vit. Quand il part là-bas et qui quitte son île, c'est ça qui.
Alors moi je veux pas. Oui, ce livre c'est un peu. On va pas le dévoiler, mais moi je pense que évidemment la vie à Saint-Laurent-du-Maroni était terrible. Le bagne c'était terrible. Attention, Saint-Laurent-du-Maroni, c'est pas les îles du diable. Hein. Saint-Laurent-du-Maroni, on a une vie de bagnard qui ressemble un peu à un camp de prisonniers. Hein. C'est pas papillon.
Allez.
Voilà, c'est pas papillon avec les îles du diable. Je pense que cette vie était terrible, mais je pense que pour des gens qui vivaient en Corse au 19e siècle, ça n'était pas si terrible que ça, excusez-moi du peu, puisque quand on regarde les statistiques, les Corses mouraient moins que les autres. Déjà,
d'accord.
Premier élément. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, bon, peut-être l'habitude du palu, des choses comme ça, mais surtout, il y avait beaucoup de surveillants qui étaient Corses. Donc je pense que Malgré la douleur, malgré la violence, les Corses s'en sortaient un peu mieux. Et donc, mon ancêtre a vécu des années là-bas.
Et comment vous avez eu écho, vent de cette
alors,
histoire?
Là, c'est quand même assez extraordinaire. C'est que, je prends cet exemple, des fois, j'ai trouvé un tesson dans une ruine et j'ai fabriqué la maison avec le tesson. C'est tout simplement ma grand-mère qui me disait qu'elle n'avait jamais connu son grand-père, puisqu'il était parti en Guyane, dans les années 80-90.
Ça part de là, en fait, l'histoire.
Et là, deux phrases.
Ouais.
Et là, respect absolu pour les archives, je vais à Aix, aux archives d'outre-mer, ce qu'on appelle les archives d'outre-mer, et je demande le dossier Antoine-Michel Ferracci, et quelqu'un vient avec un dossier d'une trentaine de pages. Là, quand même, c'est très, très, très émouvant. Parce que c'est un homme d'une banalité absolue. Hein. C'est pas Landru, je veux dire. Des gens comme lui, il y en avait des milliers. Et bien, malgré tout, le système pénitentiaire français fait qu'il y a une trace. Donc, je me suis servi de pas grand-chose. Hein. Les dates sont justes, les lieux sont justes.
Les personnages aussi.
Non. Les personnages dans l'église sont pas justes. Sauf Noël Rocchini, qu'on voit apparaître à un moment. Non, les personnages...
Noël ou Xavier ?
Xavier, Rocchini,
le fameux bandit qui était...
L'animal, bien sûr. Donc, qui a été décapité sur la place Porte. Je crois que c'est le dernier décapité sur la place Porte.
Mais, il y a assisté, d'ailleurs, à cette décapitation, non ? Le personnage.
Le personnage y assiste, effectivement.
J'ai peur de trop en dire, donc...
Mais oui, c'est pour ça que j'ai pas voulu le dire. Mais voilà, donc il y a la décapitation de Rocchini... Et il y a cette Corse de 1890 qui, en fait, est en train de basculer dans quelque chose, mais qu'elle ne maîtrise pas, évidemment.
Est-ce qu'il y a le professeur d'histoire aussi derrière l'écriture ? Est-ce qu'il y a aussi cette envie de témoigner ? Pas du tout.
Là, de raconter
l'histoire de ces gens-là aussi, parce qu'il y en a quelques-uns.
Non, ce qui m'intéresse... Là où il y a le professeur d'histoire, c'est que sur les dates, je ne me trompe pas.
D'accord.
Mais ce qui m'intéresse, c'est les sentiments des gens. Les meilleurs livres d'histoire, c'est les livres de Balzac et de Flaubert. C'est pas les livres d'histoire véritablement. Moi, je crois beaucoup aux sentiments. Je crois beaucoup à la poésie. Je crois que dans la poésie, dans les chansons populaires, corse particulièrement aussi, hein, il y a plus d'histoire que dans les livres d'histoire. L'histoire, pour moi...
Alors, c'est... comment vous le définissez ? Il est défini, bien sûr, dans le... on comprend le personnage, mais en quelques mots, si vous deviez, aux auditeurs, quels sont les sentiments de cet homme
Les sentiments de cet homme, c'est que quand on subit une peine de prison, à l'époque, aujourd'hui, les hommes sont tout à fait les mêmes dans leur pensée. La douleur, ce n'est pas la peine de prison. La douleur, c'est d'être arraché des siens et de se poser la question, vais-je, c'est son obsession pendant tout le livre, est-ce que je vais être enterré dans cette terre de malheur ? Il ne veut surtout pas être enterré en Guyane. Et là, je peux pas.
Ah, mais non,
c'est pas possible.
Non. Au contraire, on invite parce que il faut pénétrer. Enfin, il faut du moins avoir cet ouvrage et lire cette histoire. Alors, ce qui est marrant, c'est que si on prend juste le, donc là, c'est votre trisaïeul. Avant, c'était votre grand-père. votre père, c'était pour chute. Non, c'était
non,
pour
lettre à mes fantômes.
Lettre à mes
père.
Fantômes. Donc, en fait, là encore, quelque part, c'est ressort, en fait, c'est cette éponge que l'on presse et ça fuit.
C'est une éponge mémorielle, mais voilà. c'est mon éditeur qui me l'a fait remarquer, puisque je crois qu'il écrit Serline, qu'est-ce qu'il dit, chronique familiale, qu'est-ce
alors,
qu'il
attends,
dit
j'ai plus ça sous les...
C'est un quatrième de couverture. Il dit.
Je sais.
Voilà, c'est mon éditeur qui me l'a fait remarquer quand il écrit. Gilles Serline restitue avec talent un monde disparu, c'est pas ce que je voulais dire. Mais bon, il dit que c'est donc une... voilà. L'auteur met en scène un nouvel épisode dramatique de son histoire familiale. Mais moi, je ne l'ai pas fait exprès.
Voilà.
En fait, moi, quand j'écris beaucoup avec ma mémoire personnelle, quelques sentiments, quelques impressions. Et je me suis rendu compte que finalement, mes trois derniers ouvrages parlaient de ma famille.
C'est quand même étonnant de ne pas l'avoir pensé avant.
Non,
et de s'en apercevoir
pas
a posteriori.
Parce que si je l'avais pensé avant, j'aurais fait une chronologie, je serais parti de 1890,
bien sûr,
et je serais arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, je ne l'ai pas fait exprès. Et c'est très étrange parce que c'est aussi l'écriture. Moi, j'écris comme un testament. C'est un peu... Testament, ça veut dire témoignage.
Bien sûr, oui.
Donc, comme si tout allait disparaître, et tout disparaît, puisque la mémoire, ça disparaît. Hein. Et donc, je suis assez inconsciemment, j'ai envie de transmettre au moins quelques éléments. Il y a quand même des éléments personnels à l'intérieur.
Je voudrais pas tout dire, mais il y a même un petit passage, je crois, à votre femme... Non, enfin,
avec mes enfants, oui.
Oui, enfin voilà, il y a quelque chose de personnel.
Oui, oui.
Ben, non, mais on va. Allez,
on va pas tout
ne
dire.
Parlons plus du livre. Allez, ne parlons plus du livre. On invite nos amis Guyane chez Maurice Nadeau. Parce qu'on arrive au terme de l'émission. J'ai encore deux, trois questions. Quand on écrit, vous nous l'avez dit, j'écris pour les gens.
J'écris pour les miens, pas au moins pour Poulou.
Voilà, d'accord. Est-ce que y aurait une reconnaissance qui aurait plus de poids qu'une autre ? C'est-à-dire, est-ce que ça passerait par un prix ? Est-ce que ça passe par quelqu'un qui vous dit « Oh, je t'ai lu, Gilles, mis au ridroado » C'est quoi la reconnaissance ?
Ah, moi, ma reconnaissance absolue, c'est quand je fais des signatures, discussions dans les villages et que je discute avec les gens. Pour moi, c'est mon...
Autour de vos ouvrages. Hein,
oui, c'est une merveille pour moi. J'en ai fait une à Waldaritch ou à côté de...
Oui, c'est dans le sud. Ouais.
Voilà, à côté de
Lévis, ouais.
Où c'était fantastique. C'est ma plus grande reconnaissance. C'est ma plus grande reconnaissance. C'est-à-dire que il y a le retour, il y a l'écho qui revient. L'écho revient, et pour moi, c'est la véritable richesse, quoi. Le reste, ce n'est que de la vanité.
Voilà, ce n'est que de la vanité. Un jour, vous pourriez écrire en Corse ou pas du tout ?
Non, je crois que c'est pas possible. Alors, je suis capable de d'écrire des petits poèmes en langue corse, tout petits, de faire de toutes petites improvisations très courtes, mais c'est un problème de niveau. Je vais être très, très trivial, enfin très pragmatique plutôt. C'est un problème de niveau. Bon, d'abord, je n'ai pas l'occasion pratiquement de parler corse dans la semaine, puisque... Non, parce que je croise très peu de corsophones.
Et puis, c'est aussi ensuite, une réalité, malheureusement.
Voilà, c'est une réalité. Et ensuite, je vais vous répondre d'une manière un peu plus complexe. On va dire, je dis n'importe quoi. En français, je dispose de 3000 mots. Encore, je dispose de 400, par exemple.
Et on peut en dire des choses à 400
Mais ma vengeance, elle est celle-ci. Elle est qu'en vérité, je n'écris pas véritablement en français. Comprends qui peut.
Moi, je pourrais développer.
Le palimpeste est corse.
Je pourrais développer, effectivement.
Voilà.
Parce que ça, quand on connaît la langue corse, quand on vous lit, on sent qu'il y a du corse.
Ben oui, mais c'est pour essayer de compenser cette frustration. Parce que c'est quand même un rêve pour moi. Ça serait un rêve d'écrire au moins des poèmes en corse. Au moins des poèmes.
Est-ce que c'est quelque chose. Vous avez peut-être par manque de temps, hein. Je ne dis pas par manque d'intérêt, bien sûr que non, mais par manque de temps, de vous enrichir pour justement réussir à un moment peut-être à dire quelque chose en langue corse, mais toujours avec ce sentiment peut-être de ne pas être allé assez loin par manque de moyens, je dirais.
Les moyens, ils sont extrêmement simples. Moi, je ne suis pas un intellectuel, véritablement. Les gens se moquent de moi. Oh, oui, t'es un intellectuel. Non, je ne suis pas un intellectuel. Je suis un sensitif. Je suis un impressionniste, un expressionniste, selon le mouvement pictural. Mais si je parlais corse toute la journée, je serais capable d'écrire des poèmes en corse. Le corse,
c'est pas une frustration, voilà, pas du tout.
De pas écrire en corse.
Oui.
Ah oui.
Quand même.
De
ouais.
Ne pas parler, c'est une catastrophe pour moi. Enfin, c'est pas que je ne sache pas parler. C'est de ne pas avoir la capacité sociale de parler. C'est une catastrophe.
Je peux comprendre. Projet, je ne sais pas si...
Projet, mais il y a un livre qui est fini.
Il y a le livre, bien sûr.
Mais il y a un livre qui est terminé depuis deux jours, là, qui s'appelle Village.
Ça, vous me donnez l'info.
C'était un manuscrit, voilà.
D'accord.
Il est terminé depuis deux jours. Je vais l'envoyer à mon éditeur dans...
Ça s'appelle Village.
Village.
Il y a encore de l'autobiographie.
Non, il n'y a pas d'autobiographie du tout.
C'est ici, c'est ailleurs.
Ah, ça se passe à Coenza, 100%.
Ah, d'accord.
Mais sans être cité, parce que j'ai envie de retourner chez moi tranquillement.
Vous n'en avez pas parlé, vous avez bien fait. La chose est dite. En tout cas, ça va toujours trop vite. J'aurai encore plein de choses à. Mais je vous invite sincèrement.
La prochaine fois, peut-être.
Ben oui, volontiers. J'espère qu'on a au moins réussi à donner, j'en suis quasiment certain, donner envie d'ouvrir ce livre, Guyane, chez Maurice Nadeau, de Gilles Zerlin. Et c'est son sixième ouvrage. Un peu frustré de ne pas trop en dire, mais c'est vrai que. Il faut, voilà. Et je pense que beaucoup de lecteurs trouveront aussi beaucoup de leur histoire personnelle,
oui.
De choses qu'ils ont
entendues. C'est l'histoire d'un peuple. Hein.
Exactement.
On,
oui.
On a presque tous vécu les mêmes choses au même moment.
Effectivement. Et c'est ça la magie de l'écriture, c'est que ça permet de fixer des choses qui sont peut-être même enfouies chez certains et de les retrouver. Longue et belle Estrada Viurida.
Biringrac.
Voilà, Soeg et Biringrac. Et puis, comme je dis à chaque fois, à très vite pour un nouveau numéro de Sobra Loco.
Merci.